Merci, Madame la Présidente. Alors voilà, la question du financement climatique est évidemment une question déterminante pour l'application d'un droit à l'environnement, mais aussi d'un droit à la transition climatique qui avance et qui puisse se réaliser à la fois dans les pays les plus émetteurs, mais aussi surtout dans les pays les plus affectés. Alors l'étude que je me propose de réaliser, le but est vraiment de fournir aux États membres, à la société civile, aux académiques, à tous ceux qui, auprès desquels le mécanisme d'experts disséminera cette étude, de fournir un outil, une sorte d'état des lieux ou de tableau de bord de l'ensemble des processus qui sont aujourd'hui décidés ou en cours et qui concernent de près ou de loin le financement de la transition climatique. En l'occurrence, cet état des lieux ou ce tableau de bord n'est pas une définition extrêmement précise et concrète, y compris chiffrée, de chacun des mécanismes, parce que je pense que ce n'est pas dans notre, je dirais, dans notre mandat. Il y a d'autres agences des Nations Unies ou d'autres experts qui travaillent là-dessus. C'est plutôt de fournir aux États membres l'ensemble du tableau qui concerne toutes les décisions en cours et les négociations en cours sur les financements de la transition climatique. Dans une approche ou dans une perspective du droit au développement, l'idée est bien que pour chacun de ces mécanismes, et je vais donner quelques exemples, chacun de ces processus, nous puissions, un peu comme le rapporteur spécial le proposait, identifier à la fois les initiateurs de ces mécanismes ou de ces processus, et ils sont nombreux, les partenaires ou les stakeholders, comme on dit en anglais, de ces différents mécanismes, les bénéficiaires, les pays qui pourraient en être les plus bénéficiaires, les objectifs que chacun de ces processus poursuive, les liens qu'ils ont avec d'autres processus, parce qu'il s'agisse de processus liés, par exemple, et le rapporteur spécial en a cité, il a cité le fameux dossier Loss and Damages, donc préjudice et dommages, qui va être discuté lors de la COP. C'est la COP qui en discute, c'est la COP qui arrivera ou n'arrivera pas à un accord, mais c'est important de faire un lien entre les différents processus. Aussi, dans ce tableau de bord, identifier l'état d'avancement de chacune des discussions. Les obstacles, moi j'appelle ça les obstacles, le spécial rapporteur appelle ça les ruptures, mais donc les difficultés qui ne visent évidemment pas à dire qui sont les bons et les méchants, mais qui visent à identifier où et sur quoi les choses butent, où les choses sont difficiles, de manière à fournir aussi de la matière pour du plaidoyer dans des parlements, pour des plaidoyers dans les associations ou au sein même des gouvernements. En fait, en plus de cela, je voudrais pouvoir mettre en évidence en quoi ces différentes initiatives, ces différents processus encouragent le droit au développement, en quoi ils appliquent la responsabilité, la solidarité, l'inclusivité et le partenariat, qui sont un peu les quatre conditions, si je peux dire, du droit au développement, qui sont donc des éléments clés de ce droit au développement, et en quoi ces mécanismes sont innovants. Et je vous donne quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive parce que ce travail sera un travail qui va être progressif. Je pense évidemment à certains processus en cours comme l'initiative de Bridgetown qui a été présentée entre autres par le collègue ambassadeur des Barbades qui était ici hier parce que la Barbade a été le pays initiateur de cette initiative visant justement à cibler la vulnérabilité spécifique de certains pays et la manière d'y répondre à court, moyen et long terme. Et donc c'est toute une initiative, tout un processus qui est en cours, dont il est intéressant de suivre les premiers résultats. Ensuite, la question, et là aussi le rapporteur spécial l'a évoqué, et je ne travaillerai pas sans relation avec lui, sur la question des banques de développement, le renforcement des banques de développement multilatérales, leurs modalités, comment est-ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas financer ou soutenir des infrastructures vertes ou des green infrastructures. Les questions liées, entre autres, à la dette et en particulier à l'agenda de Marrakech, qui est un agenda qui vise à permettre que la dette ou les remises de dette ou les restructurations de dette soient liées au climat. Les questions que j'ai évoquées hier sur la rémunération des écosystèmes qui contribuent aux équilibres carbone, et je pense en particulier à tout ce qui est les échanges de carbone et la question des marchés de carbone, là où ils existent, là où ils n'existent pas. et là où ils pourraient contribuer à financer du développement et financer bien sûr la transition climatique. Quand je parle de transition, je pense à la fois à l'adaptation au changement climatique et à la transition vers des systèmes moins émetteurs de CO2. Enfin, un dernier domaine que je voudrais investiguer est celui des assurances et des agences de notation. En quoi et comment, aujourd'hui, elles réfléchissent ou pas à la façon d'être redevables ou dans leur conditionnalité, dans leur modalité, comment est-ce qu'elles peuvent encourager la justice climatique et surtout, comment est-ce qu'elles peuvent éventuellement intégrer les aspects liés aux biens climatiques tels que certaines régions du monde les possèdent. Là aussi, ce sont des mécanismes assez innovants qui sont un peu à leur début, mais dont il est intéressant d'investiguer pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas et quelles sont les choses qui pourraient amener à instaurer ou à généraliser des initiatives qui sont aujourd'hui prises à plus petite échelle. Donc chaque fois, pour chacun de ces dispositifs, je voudrais identifier qui sont les initiateurs, qui sont les acteurs. Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est du multilatéral? Est-ce que c'est du bi ou du plurilatéral? Et quels sont chaque fois les objectifs et les chemins engagés pour aboutir à, in fine, produire du financement climatique? C'est aussi une façon d'éviter ce que certains ont évoqué hier, à savoir le danger de voir le financement climatique se substituer à la coopération au développement, ce qui n'est certainement à éviter à tout prix. Ce sont deux domaines complémentaires, mais l'un ne peut pas se substituer à l'autre. Et donc, il est important d'identifier dans une même étude, dans un même rapport et en lien avec le rapporteur spécial et ce que lui envisagera, la façon dont le financement climatique peut se différencier ou venir complémenter la coopération au développement, que d'ailleurs mon collègue Mihir va lui développer dans son étude. Voilà ce que je voulais vous proposer.